Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Pierrot pour ce premier rendez-vous. Nous vous proposons une rencontre autour du spectacle Correspondance, égalité et impérialisme, une histoire intime. En effet, nous sommes aujourd'hui avec Mourad Baitiche et Pascal Billot, tous les deux musiciens du collectif Mawal. Ils nous parleront de leur travail de musicien et de leur création du moment, le spectacle Correspondance, qui sera joué à La Source de Fontaine le 23 mai à 19h30. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais passer la parole à Gabrielle qui va nous présenter nos deux invités.
Mourad Baitiche et Pascal Billot sont tous les deux membres fondateurs du collectif Mawal et de la coopérative Dia2, qui produit des spectacles, des disques et de la radio.
Mourad a 42 ans. Il a grandi dans la banlieue grenobloise et apprend les tambours sur quatre autodidactes entre les influences arabo-berbères de sa famille et ses participations atypiques au Bendir dans des groupes de rap ou de funk locaux. Il commence sa vie professionnelle à l'usine dans l'industrie chimique, mais très rapidement, il change de voie et entame une reconversion professionnelle en gestion des entreprises du spectacle vivant. Mais ce qui le passionne vraiment, c'est la musique, et en particulier les percussions et le jazz. Pascal a lui aussi 42 ans. Enfant, il apprend le saxophone, et après des études de musique à l'ENM de Chambéry et au CNR de Grenoble, il collabore à de nombreux projets musicaux en tant qu'interprète, compositeur et arrangeur.
Mourad et Pascal se rencontrent en 1998 et depuis, au sein de la coopérative Dia2, ils participent ensemble à de nombreux concerts et spectacles. Aujourd'hui, ils travaillent à la création d'un nouveau spectacle intitulé Correspondance, égalité, impérialisme, une histoire intime. Avant de parler du spectacle, pouvez-vous nous raconter comment vous êtes rencontrés et comment vous avez décidé de travailler ensemble ?
Il y a pas mal de temps maintenant, il y a 20 ans qu'on se connaît donc. On s'est rencontrés je crois en 97 ou en 98. Je travaillais sur un spectacle pour enfants avec une danseuse et un autre musicien. Et Pascal, lui, travaillait avec une autre compagnie de spectacle pour enfants qui s'appelle Les Zinzins. Et il était venu voir notre spectacle. Et à la fin, en fait, comme ça se fait souvent chez les musiciens, on a proposé, s'il y avait des musiciens dans la salle, de venir prendre des instruments et de jouer ensemble, en fait. Et du coup, Pascal s'est présenté et on a joué ensemble. Et puis, du coup, ça a bien accroché. Donc, du coup, on s'est revus un tout petit peu plus tard. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on s'est connus et qu'on a développé nos différents projets ensemble.
Pouvez-vous nous raconter comment vous est venue l'idée de ce spectacle et pourquoi avez-vous choisi de parler de cette thématique, égalité et impérialisme, une histoire intime ?
L'envie de créer ce spectacle, elle a été d'abord musicale. Depuis assez longtemps, on s'inspire de musique du monde pour pouvoir composer, trouver des nouvelles idées. Et on a beaucoup travaillé autour du Maghreb. Il y a eu notamment un spectacle qui s'appelait « Correspondance algérienne », dans lequel on jouait de la musique chabi. Voilà, plutôt des reprises, et on avait envie de faire des créations autour de ces influences. Et plutôt que s'accrocher juste au Maghreb, on s'est dit ça serait bien de faire ça, mais sur le monde entier, c'est-à-dire de regarder tous les styles de musique populaire qu'on peut trouver, quelles sont les choses qui les rapprochent, quelles sont les choses qui les singularisent. Et au final, on s'est dit, c'est quand même pas mal. La France, pendant des années et des années, depuis très longtemps, même si nous, on s'est plutôt accroché à l'influence, enfin à la colonisation depuis le 19e siècle. En fait, elle a essaimé un peu partout. Et donc, on s'est retrouvé à se dire, la musique de l'Indochine, c'est intéressant. Le Laos, le Cambodge, c'est très intéressant. Tiens, on a des choses qui ressemblent beaucoup à des rythmes marocains, par exemple. On s'est aussi dit, la Guyane. Quel genre de musique ils font en Guyane ou La Réunion, des choses comme ça. Et c'est parti d'une envie au départ très sonore, très musicale. Et puis, comme on a l'habitude de beaucoup mêler les textes à ce qu'on fait, on s'est dit, aujourd'hui, quel sujet d'actualité peut se raccrocher à cette histoire de la colonisation sur laquelle on a déjà tellement parlé, qui fait partie des programmes scolaires, sur laquelle il y a peut-être plus grand chose à dire, et puis on ne voulait pas faire un spectacle où on donne des leçons, on voulait plutôt faire un spectacle avec une ouverture sur l'actualité. Et cette ouverture sur l'actualité, une des choses qui questionne particulièrement, c'est l'égalité, parce que toute cette période coloniale, en fait, il y avait beaucoup d'inégalités, justement. Et quels sont les restes de ces influences dans ce qui se passe aujourd'hui ? Donc on relie finalement un discours philosophique, intellectuel, à quelque chose de plus viscéral et de plus sensible, plus basé sur les émotions.
Quelles sont les différentes étapes pour créer un spectacle comme Correspondance et où en êtes-vous aujourd'hui ?
pour créer un spectacle comme ça, là, on a d'abord eu une grosse période de recherche, de documentation, aller chercher sur Internet, sur les archives de l'INA, etc., etc., des musiques traditionnelles, parce qu'on travaille vraiment sur, moi, ce que j'appelle des archaïsmes, c'est-à-dire des musiques qui s'autodéfinissent, finalement, qui existent par elles-mêmes et qui ne sont pas forcément très développées, mais qui ont des idées de base particulièrement fortes et caractéristiques. Donc, on a déjà commencé par se documenter. Puis après, on a commencé à décortiquer ces musiques, regarder comment elles étaient faites, quel genre de métriques elles avaient, quels instruments étaient utilisés. Et puis, on a commencé à mélanger tout ça, aussi avec des recherches personnelles qui datent d'il y a très longtemps. Moi, ça fait longtemps que je m'intéresse énormément à la musique de Ligeti ou de Steve Reich, des musiques qui sont dites musiques répétitives. Et on trouve cet aspect répétitif dans ces musiques, justement, du monde entier. Alors, comment s'amuser à écrire avec ces influences-là, qui font partie un peu de notre ADN à nous, et comment les mêler au reste ? Voilà, ça c'est la petite question. Techniquement, souvent on travaille en s'enregistrant, en lançant des idées de base. Hein, c'est la partie hamac, un peu rêverie. On improvise quelque chose, on regarde comment ça fonctionne sans trop se poser de questions. On réécoute et puis après on crée des arrangements dessus. Donc là, plutôt à la table, hein, c'est soit papier-crayon, soit sur un ordinateur. Mais là, on commence à écrire des notes, on commence à regarder comment on peut développer tout ça de façon intelligente, sans pervertir les idées premières, en essayant de rester fidèle à ces idées, mais en essayant de créer des développements, voilà, au niveau musical. Et puis, souvent, ça crée des petites pièces qui font 1 à 2 minutes. Et on travaille beaucoup sur l'improvisation quand même, donc on crée des moments qui nous permettent des ouvertures d'improvisation, c'est-à-dire des moments du spectacle qui ne sont pas vraiment prévus, sur lesquels on a juste un cadre et où on va essayer de développer des choses sur l'instant. Voilà, au niveau musical, comment on crée un spectacle comme celui-là.
Et au niveau de rester fidèle, tout à l'heure, vous parliez des instruments. Vous gardez les instruments, est-ce que vous prenez des instruments que vous avez repérés ou quoi ?
Alors, on a un peu des deux. Mourad, ici présent, travaille sur la famille des tambours sur cadre qu'on retrouve dans le monde entier. Presque toutes les cultures l'utilisent. Donc, on a déjà des instruments qui sont très similaires, des instruments qui viennent des pays du Maghreb, qui viennent de Syrie, d'endroits comme ça. D'Italie aussi, on en trouve, hein, les tambours sur cadre. Par exemple, on a le tamborello. On retrouve ça au Brésil, on retrouve ça un peu partout. Donc déjà, cette famille d'instruments permet de se rapprocher beaucoup des sonorités de départ. Ce sont des instruments, donc des percussions, avec une seule peau tendue sur un cadre. À côté de ça, on a aussi quelques instruments avec des doubles peaux, des choses comme ça. Et la question est intéressante parce que on s'est demandé comment reproduire, par exemple, l'orgue à bouche du Laos, alors qu'on n'a pas l'instrument et puis que ça nous demanderait de le réapprendre, ce qui est presque impossible dans un laps de temps aussi court. C'est là que c'est intéressant. On a un flûtiste dans la formation et moi, je fais du saxophone. Alors, on a commencé à essayer de créer la même chose que ces orgues à bouche, mais avec un saxophone soprano et une flûte traversière, en créant des décalages et tout ça. Et ça crée quelque chose d'hybride. Ce n'est pas l'instrument de départ, mais quand même, ça rappelle beaucoup cette sonorité-là. En plus de ça, on a une contrebasse. Cette contrebasse, bien sûr, elle n'est jamais présente dans ces musiques de départ. Mais on va s'en servir, par exemple, comme d'une percussion, en limitant le nombre de notes qu'elle fait, par exemple, pour renforcer cet aspect percussif, ou alors carrément en tapant sur les cordes avec des baguettes ou des choses comme ça, en essayant de créer des sons un peu hybrides et qui se rapprochent de ces instruments. Voilà. On réinvente finalement des instrumentations sur ces musiques-là.
Dans ce spectacle, il y aura de la musique, des textes et des images. Comment travaillez-vous tous ensemble ?
Il y a vraiment des moments particuliers qui sont des moments de résidence où on travaille très concrètement, c'est-à-dire qu'on joue, on envoie des images, on essaye des textes, on voit si ça marche ou pas, on enregistre, on réécoute et tout ça. Donc ça, c'est l'aspect vraiment très concret. Et puis après, il y a tout l'aspect un peu à côté, qui est qu'on se côtoie tous les jours, on travaille les uns avec les autres tous les jours. Et du coup, il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup de discussions, il y a des engueulades, il y a des moments où on tombe d'accord et tout ça. Et c'est tout ça qui fait, en fait, la conception des spectacles. Après, il y a toujours des chasses gardées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la personne qui propose le contenu musical, c'est Pascal. Mais il le propose de manière à ce que ça soit très libre pour que chaque interprète à l'intérieur puisse y mettre sa personnalité et qu'à la fin, ça crée vraiment un truc très intéressant. Sur les images qui sont faites par Khaled, il vient renforcer peut-être les textes ou avoir un aspect plus poétique et tout ça. Et ça, généralement, on travaille vraiment de manière empirique, c'est-à-dire que la personne qui est chargée de faire ça propose. Et puis on essaye, et puis on voit si ça correspond à tout le monde, si c'est intéressant. Et puis généralement on garde parce que c'est la spontanéité est très intéressante aussi. Au niveau des textes, on a fait appel à Marc Olivier, qui est un chercheur au CNRS et qui a pas mal de contacts avec le monde étudiant et puis le monde des universitaires et tout ça. Et du coup, on a fait appel à une personne qui s'appelle Trémor Kemner, c'est un historien spécialiste des colonies. Pour les besoins de ses recherches, il a compilé un nombre de correspondances qu'il y a eu à cette période-là, qui est immense en fait. Et donc du coup, on lui demande de faire des choix. Selon le texte, selon le sujet qu'on a choisi, donc égalité, impérialisme, voilà, une histoire intime, comment ces deux choses-là s'entremêlent en fait depuis le début de la colonisation et jusqu'à aujourd'hui, quels sont les restes. Et du coup, il nous fait un premier choix de texte et nous, après, dans ces textes-là, on voit ce qui pourrait correspondre, ce qui est plutôt poétique parce qu'on n'a pas envie d'avoir un spectacle qui est une chronologie en fait de cette période-là. C'est pas du tout notre but. On n'a pas envie de donner des leçons, on n'a pas envie de faire une chronologie et que ça soit explicatif. On a vraiment envie d'interroger et de montrer que c'était que c'est une question très complexe en fait.
Finalement, tu poses un peu la question de comment on crée un spectacle de A à Z. En fait, un spectacle, c'est une histoire. On a tout un tas de paramètres qui peuvent bouger. Si je prends juste les choses musicalement, les tempos, qui sont plus ou moins élevés, les ambitus des morceaux, donc l'écart entre la note la plus grave et la plus aiguë, même à l'intérieur d'un morceau, ça peut compter. La complexité rythmique, ces choses-là. Alors, en fait, on essaie de faire en sorte de créer un suspense. Les premières choses qu'on va poser, souvent, elles donnent une règle du jeu. Elles permettent de définir quelque chose, un état de stabilité, finalement, qui va bouger au fur et à mesure et puis qui va aller vers certains moments instables qui vont créer un vrai suspense. L'auditeur se met à avoir plus d'attention à ces moments-là. Ça l'emmène quelque part et puis on va résoudre ces tensions ou pas à des moments clés du spectacle. On essaye de faire coller vidéo, texte et musique de façon à ce que tout ça soit en phase finalement pour pas avoir une impression d'être submergé par les informations. Et en gros, si vous écoutez un morceau de musique, si vous écoutez Bach, par exemple, c'est flagrant, en fait. Regardez la note la plus haute ou le moment le plus intense harmoniquement ou rythmiquement le plus intense. On se retrouve généralement à peu près aux deux tiers du morceau. Et puis après, on a une forme de résolution. Le spectacle, on l'envisage comme ça sur sa longueur, c'est-à-dire un spectacle qui va durer une heure et quart. Bah peut-être au bout de trois quarts d'heure, là, on va avoir vraiment le moment le plus intense, le plus explosif, ou en tout cas le moment qui crée une vraie cadence à l'intérieur du spectacle, de façon à pouvoir ensuite amener vers une sorte de relaxation, ce qui permet d'avoir vécu finalement une histoire. Donc ça, c'est sur l'ensemble du spectacle, et c'est vrai aussi pour chaque partie qu'il compose. Donc on a finalement, c'est un jeu de poupées russes, des boîtes dans les boîtes, avec une règle du jeu un peu fixée comme ça. Puis des fois, comme cette règle du jeu, elle s'est installée deux ou trois fois, des fois, on fait l'inverse pour créer encore une surprise et amener à quelque chose d'autre. Alors ça, ces principes-là, en fait, ça s'appelle la psychoacoustique. En fait, c'est comment un être humain moyen réagit à une création donnée en fonction des informations qu'on apporte.
Ce spectacle est créé en collaboration avec la Source de Fontaine. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce partenariat entre Djihad et La Source ?
C'est un partenariat qui a débuté depuis l'ouverture de La Source. Et donc là, c'est depuis 2003, on a installé sur Fontaine. Et en 2009, La Source a ouvert et on nous a proposé un partenariat privilégié et de proposer en fait, des spectacles dans un cadre, en fait, une espèce de carte blanche, dans un cadre qui s'appelait les salons de musique à l'auditorium de La Source. Et du coup, voilà, on a développé différents spectacles. On a fait venir des spectacles aussi de l'étranger. On a monté tout un projet qui était en gros les règles du commerce équitable adaptées à la production d'artistes. Donc il y a vraiment tout un aspect en fait avec Jean-François Brun, qui est le programmateur et le directeur de La Source. Il y a vraiment un aspect où à chaque fois, chaque année, on propose des nouvelles créations. et où il y a vraiment un pari qui est pris et puis un risque qui est pris, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment pas le cas du tout dans la production musicale. Il y a de plus ça va, en fait, vu que tous les budgets se réduisent et tout ça, il y a de moins en moins de diversité et on permet de moins en moins de la création comme ça et de la prise de risque. Du coup, c'est vraiment un travail super intéressant qu'on a avec la source, parce que ça nous permet vraiment de créer des spectacles et d'aller rechercher pas forcément l'originalité, mais en tout cas une certaine sincérité dans ce qu'on fait.
Toujours autour du spectacle, Mourad, j'ai entendu dire que vous donnez des cours au 3e de percussion.
Oui.
Pouvez-vous nous en dire plus ?
Avec la source, on met des actions de médiation autour du spectacle qu'on va jouer. Et du coup, j'avais proposé à Sabrina Lombardi d'intervenir en fait, pour une classe sur de la percussion, puisque le répertoire qu'on va jouer est très imprégné en fait, de musique traditionnelle. Il y a vraiment tout un aspect en fait, très intéressant au niveau de la percussion. Et du coup, elle m'a proposé d'intervenir pour une classe sur laquelle elle est professeure. Tous les vendredis, je viens faire une demi-heure par moitié de classe, donc sur une heure. Je travaille sur un morceau plutôt d'influence maghrébine, plutôt marocaine en fait, et un morceau qui est plutôt d'influence de la Guyane, donc qui sont très typés, qui sont très très différents. On va faire une restitution le vendredi 14 avril. Les prochains ateliers seront consacrés en fait à des répétitions avec les musiciens sur ces deux morceaux-là.
Que pensez-vous que ce spectacle apporte dans le contexte politique actuel ?
Pour nous, il s'agit de défendre une forme de diversité de pensée, je crois. C'est-à-dire de faire en sorte qu'existe, malgré le fait qu'il y a des formes très dominantes à cause d'un contexte économique libéraliste, c'est surtout de faire en sorte que tout puisse exister à l'intérieur de ce monde-là. Et donc finalement, c'est une forme de démocratie dans laquelle on ne vote pas, mais où chacun a le droit d'exister et de se poser comme un acteur culturel. Voilà. Ça pose aussi la question des droits. Qu'est-ce que c'est que la culture ? Et ça pose la question des droits culturels. Comment est-ce que chacun a le droit de défendre sa propre façon d'être face aux autres ? Est-ce qu'on a le droit d'être différent des autres ? Est-ce qu'il faut se raccrocher à ce qui est commun ? Comment on fait tout ça ? Comment on vit tous ensemble ? En fait, voilà, ce genre de spectacle pose cette question-là, sans forcément donner de réponse, mais en apportant quelques éléments qui permettent de se poser la question, de savoir comment, dans un monde comme ça, qui est un monde multiculturel, comment on fait pour vivre ensemble ?
En quoi le collectif Mawal et le spectacle correspondance est-il une forme d'engagement ?
Défendre la diversité artistique aujourd'hui, c'est la plus grande forme d'engagement que puisse avoir un artiste. Après, il y a toujours le sens qu'on donne, c'est-à-dire quand on écoute un morceau de Bob Marley, c'est génial, ça chante la misère du monde, ça dénonce certaines choses et tout ça. Mais il faut savoir aussi qu'il y a tout un aspect de production derrière, qui est un aspect de production industrielle, avec des droits d'auteur, avec tous ces trucs-là. Et à un moment donné, travailler sur de l'autoproduction, sur des petits collectifs, sur des spectacles qui ne sont pas forcément la forme aujourd'hui la plus répandue, c'est une forme d'engagement artistique. Et puis après, il y a le sens aussi qu'on a envie de donner à ce spectacle-là. Pour nous, il y a vraiment ce sujet-là, égalité et impérialisme, ça sous-entend en fait aussi quelles sont les représentations aujourd'hui qu'on donne en fait aux personnes, c'est-à-dire aujourd'hui la représentation tout simplement des migrants syriens, la représentation d'une personne en fait selon l'identité qu'elle a, et c'est généralement très cloisonnant, et c'est de montrer qu'il y a plutôt pour nous il y a la forme d'engagement, c'est de montrer qu'il y a plutôt une complexité à travers ces sujets-là déjà d'une, et puis qu'il y a vraiment des choses qui ont été créées en fait à une certaine époque qui sont aujourd'hui encore à l'œuvre, qui sont tout simplement des définitions qu'on donne à des personnes et qui avant étaient scientifiques, qui aujourd'hui sont taxées de racistes, mais qui reviennent dans l'actualité très fréquemment en fait. Donc du coup, voilà, il y a cette espèce de forme d'engagement aussi à l'intérieur du spectacle.
Une des formes d'engagement aussi qu'on a, c'est que si par exemple, je veux être sûr de réussir mon coup, on n'est jamais vraiment sûr, mais si je veux être sûr de réussir mon coup, je vais regarder ce qui marche aujourd'hui, je vais regarder comment c'est construit, Et puis je vais faire quelque chose dans ce goût-là parce que je suis à peu près sûr d'intéresser une majorité de personnes, étant donné que cette majorité de personnes, elle n'aura pas peur de cette nouveauté, elle sera assez à l'aise là-dedans, elle va se retrouver dans ses propres définitions et ça va fonctionner assez bien. Hein, je peux te donner plein d'exemples là-dessus. La mode du vocodeur sur la voix, vous savez, les voix toutes métalliques qu'on entend actuellement, donc très très justes parce qu'elles sont passées à la moulinette d'un ordinateur. Des rythmes qui sont en ce moment très très à la mode, donc tout le monde y va avec ce rythme-là, puis crée ses propres, ses propres créations autour de ça. Mais si on regarde bien, quand même, toutes ces formes viennent d'autres formes qui, à un moment, ont cherché à être singulières. Et notamment dans les années 70, on a une explosion de singularités multiples comme ça qui vont chercher un petit peu dans tous les domaines. Pour moi, l'engagement, c'est chercher des nouvelles pistes. Alors qu'on soit bien d'accord, on n'invente jamais complètement de la musique. Il y a bien sûr tout le vécu qu'on a, il y a tout ce qui a été fait, il y a l'histoire de l'humanité derrière nous qui est présente. Mais l'idée, c'est de chercher des nouvelles choses. Alors peut-être que dans un premier temps, ça peut faire peur, ça peut être peut-être perçu comme étrange ou des choses comme ça, mais pour nous, c'est ce qui fait vraiment avancer les choses.
Merci pour toutes ces questions et merci pour ces réponses surtout. Je vous rappelle donc que le spectacle Correspondance sera à La Source le 23 mai à 19h30. Nous, on continuera de parler de ce spectacle avec la prochaine rencontre avec Marc-Olivier, qui lui se charge des textes du spectacle. Il me reste à vous rappeler que vous pourrez nous retrouver le vendredi 14 avril dans le cadre de la Semaine de l'Engagement pour un numéro spécial de Radio Pierrot puisque nous serons en public. Nous parlerons d'égalité et d'engagement et nous serons accompagnés par les élèves de 3e 3 aux percussions. Merci et à bientôt.